18h, 19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio U pour votre quotidienne, c'est vous qui le dites. On continue la semaine tout en douceur et en poésie avec en deuxième partie d'émission, on recevra Benoît Dorémus qui sera avec nous, auteur, compositeur et interprète qui nous présentera le spectacle Inavouable qu'il joue en compagnie d'Alexis HK et qui joueront le 28 février au Redour à Saint-Martin-des-Champs à partir de 20h30. Et pour commencer notre émission, nous accueillons Loïc Legal, directeur du Centre d'Art Contemporain Passerelle, et Marie Boyer, artiste qui sera bientôt exposée au Centre d'Art. Et pour bonsoir, bon, tous les deux déjà.
Bonsoir.
Et pour réaliser cette interview, on a avec nous Juliette, notre stagiaire. Salut Juliette.
Bonjour à tous. Du coup, aujourd'hui, on accueille Yann et Marie parce que à la passerelle, il va bientôt y avoir trois expositions du 28 février au 17 mai 2025. Donc l'exposition Sais-tu avec Charlotte Beltzung, Romain Bobichon et Pauline Le Serre. L'exposition Au trouble, réflexion des Caraïbes de Louisa Marajo, Jérémy Paul et Johan Sorin. Et l'exposition N'oublie jamais jamais les fleurs de Marie Boyer. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à cette introduction?
C'est très bien.
C'est vachement bien, oui, c'est tout ça. Vous rappelez que du coup, c'est en effet du 28 février au 17 mai avec un vernissage public le 27. Donc vous êtes tous cordialement invités à venir voir les expositions, boire une bière. Ça va être très sympa à partir de 18h, 18h30.
Donc ces trois expos qui sont assez différentes les unes des autres. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le contenu de chaque expo?
Oui, bien sûr. Alors en fait... Traditionnellement, à Passerelle, on a toujours des propositions qui sont très différentes, très diverses, justement pour avoir des points de vue qui sont un petit peu multiples sur l'art contemporain, on va dire. Là, en l'occurrence, on a une exposition qui s'appelle Sais-tu. Sais-tu, c'est un collectif qui est basé plutôt dans le sud Finistère, à Élian, qui est une commune près de Quimper. Et c'est un collectif qui, chaque année, organise un festival de performance. C'est un petit peu sur le modèle des festivals de musique, hein. C'est-à-dire que pendant un week-end, on peut venir découvrir dans un champ dans la campagne des propositions d'art contemporain qui sont assez atypiques, hein, vraiment en milieu rural. On vient avec sa tente, on la plante, on est vraiment dans un monde de festivaliers. Et on découvre des performances, de la danse, du son, pendant tout le week-end. Il y a quelques temps, j'ai proposé justement à ce collectif, qui rassemble des artistes essentiellement, de venir organiser une exposition à Passerelle, sachant que ce n'était pas leur spécialité, puisque eux, ils sont plutôt dans le monde du spectacle vivant, d'une certaine manière, ou en tout cas de l'art performé, donc plutôt avec des corps, on va dire, et en direct. Et donc la question de l'exposition pour elles et eux, c'était quelque chose de un petit peu compliqué entre guillemets, puisque c'était une nouveauté et quelque chose dans lequel a priori ils ne se projetaient pas. Donc c'était un petit peu un challenge que je leur ai donné. Je leur ai dit bon, d'habitude vous faites des performances, vous faites des choses dans des champs, ben, c'est parti, on essaie de travailler au centre d'art de manière très différente, avec des contraintes de temps qui sont différentes, puisque là on est sur 3 mois et pas sur 2 jours, avec aussi peut-être une liste d'artistes qui va être réduite, parce que dans leur festival, ils ont envie de peut-être 10, 15, 20 artistes, et là on est plutôt sur 3 artistes, pour pouvoir travailler sur justement cette question de comment est-ce qu'on présente de l'art vivant dans le centre d'art. Donc c'est un peu ça la clé de voûte de l'exposition. Donc ça c'est vraiment la première partie. La seconde partie, c'est Au trouble, réfraction des Caraïbes, qui regroupe donc 3 artistes, Louisa Marajo, Jérémy Paul et Johan Sorin, qui sont des artistes des générations, on va dire, nées dans les années 80. C'est des artistes qui sont qui ont grandi ou qui sont nés dans les Caraïbes, francophones, et maintenant, aujourd'hui, qui sont essentiellement basés dans l'Hexagone. C'est des artistes qui, dans leur pratique, d'une manière ou d'une autre, vont évoquer la question de l'écologie, la question de comment créer dans un contexte illien également. Et donc, ça va être une exposition qui est très joyeuse, malgré parfois des sujets un peu lourds, notamment, j'ai oublié le nom, mais lié à ce produit qui a été déversé sur les bananes pendant des dizaines d'années, qui a été interdit largement, mais que la France a laissé faire aux Caraïbes. Donc, c'est des sujets comme ça qui sont abordés, mais il y a un côté très pop, très coloré. C'est une exposition qui est un peu comme un petit bonbon, de cette manière, en fait, que j'en dis vraiment à découvrir. Et c'est une exposition qui est organisée par une commissaire, donc quelqu'un qui est le chef d'orchestre, de cette manière, de l'exposition, qui s'appelle Arden Sherman, qui est une conservatrice de musée américaine, qui a travaillé auparavant Hunter College, qui est un petit peu une des grosses écoles pour les beaux-arts, en fait, à New York. Et maintenant, qui travaille au Norton Museum, qui est un musée en Floride, qui, pour la petite histoire, se trouve littéralement à 500 mètres de la résidence de Donald Trump. Bon. Ce qui fait qu'elle a des histoires assez pathétiques et croustillantes à la fois à raconter. Donc ça va être une exposition qui va être aussi vraiment assez ambitieuse aussi sur le sujet. On aura des œuvres aussi. Dans Passerelle, en fait, on a un patio qui est très grand, qui a un côté très cathédral, avec un très haut plafond, et on va avoir notamment des mobiles aussi qui vont être installés. Enfin, ça va être vraiment sur tout le bâtiment assez, assez chouette. Et la dernière exposition qu'on va avoir...
Oui. Excusez-moi, c'est quoi par exemple ce que vous appelez des mobiles?
Des mobiles, c'est des sculptures suspendues en fait, avec des fils, un petit peu comme on a pour les enfants, au-dessus des berceaux par exemple. Les mobiles les plus connus, par exemple, c'est les mobiles de Calder, dans l'histoire de l'art, qui sont assez célèbres.
Okay. Parce que du coup, dans cette expo des eaux troubles, il y aura quoi comme type d'œuvre? C'est surtout des sculptures?
Il y a essentiellement de la sculpture, on va dire, mais il y a aussi des œuvres murales, des œuvres peintes. Il y aura également aussi des c'est dur de les qualifier, ces œuvres, parce que je pense qu'aujourd'hui, la question de la qualification de l'œuvre, elle n'existe plus beaucoup. En fait, toutes les œuvres sont un peu se croisent, quoi. Une peinture, elle peut être aussi sculpture. La sculpture, elle peut être accrochée au mur. En fait, c'est des choses qui disparaissent de plus en plus du vocabulaire, finalement, de l'histoire de l'art aujourd'hui. On parlait d'installation, on parle sinon d'œuvres d'art, mais c'est vrai qu'en l'occurrence, là, sur l'exposition, on aura essentiellement, oui, des sculptures et des peintures, si on devait qualifier, en tout cas. Et la dernière exposition donc, qui se déroule dans nos murs, c'est l'exposition de Marie Boyer, qui est ici présente avec nous. N'oublie jamais, jamais les fleurs. Donc, je pense qu'elle pourra nous dire un petit mot sur l'exposition en particulier, mais cela rentre dans le cadre, juste pour parler un petit peu de l'exposition elle-même, de l'organisation en tout cas. C'est une exposition qui est dans le cadre d'une résidence qui a lieu chaque année à Passerelle. Donc, il y a deux artistes qui sont sélectionnés par un jury. Cette résidence s'appelle les Chantiers Résidence et elle a vraiment pour vocation de présenter l'émergence en Bretagne et aussi d'aider à la professionnalisation des jeunes artistes en les accompagnant pendant 3 mois lors de cette résidence, avec à la fois une rémunération, mais aussi un logement qui est mis à disposition, un atelier également, un accompagnement critique, un accompagnement aussi technique avec les équipes du centre d'art, mais aussi une bourse de production. Et à la fin de cette résidence, il y a donc une exposition. Donc c'est vrai que c'est un espèce de full package assez unique pour l'émergence en Bretagne. Et on est assez fiers de porter ce projet avec Documents d'Artistes Bretagne. C'est maintenant notre 12e année. Donc ça commence à faire quelques années que ça existe. Donc Marie, qui est ici, elle est diplômée de Quimper maintenant il y a quelques années. Mais ça fait combien de temps que tu es diplômée?
Je suis diplômée depuis 2022 de Quimper, des Beaux-Arts de Quimper.
C'était ça. Et donc du coup, toi tu avais... fait plutôt un travail de peinture initialement quand tu étais étudiante, que tu développes chez nous.
Exactement. Dans l'exposition, du coup, N'oublie jamais, jamais les fleurs, où j'ai fait tout un travail de peinture qui est agencé dans l'espace comme un jardin, pensé comme un jardin avec des peintures au mur, mais aussi avec des peintures sur bois qui tiennent comme des sculptures en forme de grandes fleurs, un peu façon de décor de théâtre dans la salle d'exposition, et avec comme thème les fleurs, comme thème de tous mes sujets de peinture. Les fleurs qui se déploient soit sur des motifs de vêtements, soit dans des jardins, soit par des photos prises au flash de fleurs plus en gros plan, ou des fleurs qui sont des formes de fleurs avec d'autres peintures par-dessus, mais qui créent un ensemble un peu de jardin dans l'expo.
Et pourquoi c'est important pour toi de parler de fleurs et pas d'un autre être vivant ?
C'était pas plus important qu'autre chose. C'était un prétexte pour penser une exposition et une installation d'exposition. Et dans ma peinture, je peins des photos que je prends ou que je trouve sur Internet. Et j'ai rarement eu l'occasion de me pencher sur un seul thème et d'épuiser ce thème-là. Et les fleurs sont arrivées à un moment où j'avais envie de peindre sur bois, où je pensais l'exposition, différentes formes d'exposition ou d'accrochage de la peinture. Et les fleurs étaient à la fois un thème qui me permettait et de peindre de différentes façons, d'expérimenter différentes façons de peindre, et aussi de penser à un accrochage qui soit comme un jardin où il y a des parterres, des allées, où on peut vraiment se balader dans l'exposition. Je pense que voilà, les fleurs, c'était un gros thème de la peinture que j'avais envie d'aborder et auquel j'avais envie de me confronter. Mais c'était pas plus important que... j'aurais pu choisir le thème des gâteaux, comme j'aurais pu choisir le manga ou d'autres thèmes. C'est un des thèmes que j'avais envie de traiter,
okay.
Picturalement, je veux dire.
Après, c'est important aussi comme sujet dans l'histoire de l'art, c'est-à-dire que la fleur, depuis toujours, elle est représentée, hein, depuis les cavernes, jusqu'à l'époque antique, qui ornait les fresques à Pompéi, à la période médiévale, c'est un motif extrêmement récurrent, et c'est vrai que s'aventurer dans cette thématique, c'est à la fois... osé et consensuel. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de se dire c'est un sujet qui a été traité tellement de fois qu'on peut se poser la question de comment est-ce qu'on peut le réinventer. Et justement, c'est aussi un peu le propos de l'exposition. De...
C'est un peu le challenge aussi, peut-être.
Exactement.
Pour toi. Et moi, je me demande aussi les fleurs, ça peut se rapprocher du coup de la biodiversité, tout ça. Et vous disiez que dans Eau Trouble, un des messages de l'expo, c'était aussi l'écologie. Du coup, je me demande, est-ce qu'il y a un but de politiser les deux expos en les présentant ensemble à la passerelle ? Est-ce que c'était fait exprès ou est-ce que c'était une pure coïncidence ?
Alors, c'est plutôt une coïncidence parce qu'en fait, chaque année, les expositions sont organisées très en amont. Donc, ce qui était le cas pour Eau Trouble. Mais pour les chantiers résidences, on a un jury qui a lieu quelques mois avant l'année des expositions. Donc non, là, c'est tombé comme ça. Ça aurait pu être autre chose, en effet. Là, ça tombe bien d'une certaine manière. C'est qu'en effet, on peut voir dans ces questions des fleurs, en tout cas dans l'exposition de Marie, on peut projeter beaucoup de choses en tant que public, dont en effet la question écologique, mais qui n'est pas au cœur de son travail. Là où inversement, l'exposition Eau Trouble fait vraiment la part belle à cette question-là, cette question militante, cette question aussi... très engagé d'un constat et de quel avenir aussi finalement on peut avoir pour on va dire la faune et la diversité dans le monde. C'est des sujets qui sont assez battus, notamment dans les Caraïbes. On pense aussi aux sargasses, notamment aux algues qui viennent comme ça coloniser et manger la côte. Il y a cette histoire autour du... Je ne sais plus le nom, le diclos, quelque chose, autour de ce produit qu'on déversait sur les bananes. Et c'est vrai que ça a empoisonné toute l'île, quoi. Tous les gens, venus en leur sang, ils ont cette espèce de produit qui est présent. Et la France a toujours dédouané en disant non, jamais, comme à Mururoa, avec la question des radiations et toutes ces questions-là. Donc, en effet, il y a toujours ces questions qui peuvent être là. Et en l'occurrence... Là, on a des thématiques qui sont proches, mais qui forcément ne traitent pas de la même politique, en tout cas.
Et aussi, j'aimerais bien revenir sur, sur l'expo de Sais-tu, parce que est-ce que vous pourriez mieux expliquer qu'est-ce qu'il y aura exactement dans l'exposition? Parce que du coup, vous dites que c'est du spectacle vivant à la base, donc comment est-ce que les artistes y font pour essayer de mettre ça dans une exposition sur 3 mois à la passerelle?
Justement, c'est tout l'enjeu d'exposition, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va présenter, quel reste ou quelle œuvre fait sens lorsqu'on parle finalement d'art en mouvement, d'art vivant, et comment est-ce qu'on peut le figer, en tout cas le figer un certain moment avant qu'il soit réactivé. Et donc il y aura des œuvres qui vont être interactives. Donc par exemple, il y a des séries de frisbees qui ont été réalisées par une des artistes. Et le principe, c'est qu'on vient décrocher un frisbee et qu'on peut jouer au frisbee dans l'exposition. Donc il y a des choses un peu comme ça. On peut avoir des peintures qui sont présentes ici, qui ont été réalisées par les artistes sur place. Et donc on imagine qu'elles ont été peintes à un moment dans l'espace d'exposition. Et il y a également aussi des sculptures qui sont en terre, et qui impliquent aussi d'une certaine manière la présence de l'artiste et la main évidente qui est là, et de l'œuvre qui est éphémère, puisqu'en fait c'est une œuvre en terre qui va disparaître. En fait, on va avoir beaucoup de choses de ce type là et il y aura aussi des événements. Donc il y aura plusieurs rendez-vous avec les artistes, justement, pour les rencontrer et pour assister à des moments de performance. Donc c'est tout l'enjeu de l'exposition, c'est finalement que reste-t-il de ces moments de performance, que reste-t-il de ces moments de spectacle vivant, comment est-ce qu'on peut les signifier en dehors de l'instant présent où on le vit, en fait. C'est comme un décor de théâtre. Le décor de théâtre, il est là, il reste, mais sans la pièce, que veut-il dire? Donc là, c'est pareil, l'exposition, elle est comme ce décor, mais justement, les artistes de Sais-tu et les personnes qu'ils ont invitées, elles essaient justement de s'approprier ce moment pour le rendre vivant. Voilà. Alors que ça, on reste dans un moment d'une exposition où, a priori, il n'y a pas d'activation. Donc c'est tout l'ambiguïté, enfin, entre le fait que ce soit des objets qui existent dans un moment très présent et le fait qu'ils soient présentés sur 3 mois, en fait. Donc en fait, c'est très dur conceptuellement de l'expliquer, c'est vrai, comme ça dit, ça pourrait paraître un petit peu brouillon, mais justement, il faut venir voir l'exposition pour voir à quoi ça ressemble.
Et est-ce que, enfin, quand vous parlez par exemple des lancers de frisbee, ça veut dire que le public, il interagit directement avec l'artiste?
Alors l'artiste va être là au vernissage et sera là à certains moments. Mais en fait, après, non, il y a des instructions, en tout cas des modes d'emploi. Et en effet, on est invité à manipuler certains objets.
Ok. Et du coup, c'est assez intéressant parce que le public, il n'a pas l'habitude d'interagir directement avec l'œuvre qu'il regarde. Et est-ce que vous, avec ce type d'exposition, où du coup le public, c'est limite un acteur, en fait, on a l'impression dans l'expo, est-ce que ça vous attirait de retravailler avec eux dans l'avenir pour créer plus de liens peut-être entre le public et l'art, ou de par exemple sensibiliser le public? Et quand je dis le public, ça, c'est surtout tous les âges, donc les enfants, les ados, les adultes, etc.
On a toujours eu une programmation où on a pu avoir des expositions qui étaient interactives. On en a eu une, par exemple, il y a quelques années, de Raphaël Domenech, où l'idée, c'était que chaque œuvre de l'exposition était manipulable. Donc c'est des choses qui existent et qui sont dans l'ADN de Passerelle. Avec Sais-tu, on a déjà pu collaborer à certains événements. Et justement, je parle d'événements, c'est-à-dire en effet des moments, comme je disais tout à l'heure, des instants, sur des moments, objets, des expositions comme ça qui durent. C'est une première, a priori ce sera une unique, on ne sait jamais donc comment sera l'avenir, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est aussi dans l'ADN de Passerelle, de pouvoir proposer des choses vivantes. Récemment, on a eu une exposition de Fanette Mélier, qui vient plutôt du monde du graphisme, du livre jeunesse, de l'illustration. Et dans cette exposition-là aussi, on pouvait s'approprier des carnets de coloriage, on pouvait s'installer dans des œuvres, et c'est des choses qui nous tiennent à cœur. C'est ces moments d'exposition qui existent dans le jeu aussi, parfois. Donc, c'est pas une récurrence, mais c'est une possibilité qu'on s'offre, oui.
Merci beaucoup Loïc et Marie d'être venus au studio de Radio U pour nous présenter les expositions qui auront lieu à Passerelle à partir du 28 février et jusqu'au 17 mai. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à vous deux.
Merci. Avec Madra sur Radio U et on continue notre émission en compagnie de, excusez-moi, je me suis perdue dans mes notes. de Benoît Dorémus, qui est avec nous, auteur, compositeur et interprète, qui nous présente le spectacle Inavouable, qu'il joue en compagnie d'Alexis Hachka, et qui sera joué le 28 février au Redour à Saint-Martin-des-Champs à partir de 20h30. Bonsoir Benoît.
Bonsoir.
Merci, merci d'être avec nous.
Avec plaisir.
Donc votre spectacle, il a pour situation scénique, comme scénographie, une loge. Pourquoi ce lieu était important pour vous de représenter pour ce spectacle ?
Ben oui, c'est ça l'idée, c'est que avec mon copain Alexis, on a écrit ces chansons un peu entre nous, et les endroits où on est un peu juste entre nous, c'est soit en vacances, soit chez l'un, soit chez l'autre, là où on se croise, mais surtout aussi beaucoup dans des loges, et ça va bien avec le nom du spectacle, c'est-à-dire que l'idée c'est des chansons qu'on n'est pas censé interpréter sur scène, qu'on n'est pas censé jouer devant lui, donc... Pour une fois, plutôt que sortir des loges et aller devant le public, on fait comme si on invitait le public à nous rejoindre dans les loges. Quoi. Ça nous permet, ça nous autorise à dire un peu tout et n'importe quoi.
Justement, en cours du spectacle, comment vous interagissez avec la scénographie ?
Alors, la scénographie, elle est assez simple. En fait, une loge, c'est assez facile à représenter. C'est un miroir à ampoule, une table, des cacahuètes et puis deux chaises et voilà. Et donc c'est un peu ça l'idée, c'est on est dans notre loge, on essaie de tuer un peu le temps en écrivant des chansons inavouables entre guillemets, mais quand même pour l'occasion on se fait tout beau, on est en costume parce que c'est pas tous les jours qu'on ouvre les loges au public, donc voilà, c'est un mélange entre décontraction et quand même un peu d'élégance, et surtout pour amener beaucoup de second degré et de dérision.
Justement, pendant le spectacle, vous avez interprété différentes chansons un peu poétiques, un petit peu humoristiques aussi. Et comment le spectacle évolue et l'écriture des chansons aussi évolue à travers les tournées que vous faites, et est-ce qu'il y a des nouveaux morceaux qui sont composés au fur et à mesure ?
Ouais, là c'est vrai que c'est des chansons, c'est que des chansons qu'on a écrites tous les deux. C'est Alexis Hachka, on est tous les deux des chanteurs, on a nos propres disques, notre parcours, notre carrière. Mais là, on s'est vraiment mis ensemble pour écrire les chansons, et donc on les a écrites vraiment à quatre mains, et ça nous tient vraiment à cœur, et c'est des chansons aussi qui sont pour l'instant qu'on peut entendre que sur scène, qui n'ont pas été encore enregistrées sur un album. Voilà, donc ça c'est un boulot qui nous a pris quelques mois, mais c'est vrai que depuis qu'on a commencé la tournée, bah quand on est tous les deux, de toute façon quand on est deux copains qui s'entendent bien et surtout on se fait rigoler, bah on peut pas s'empêcher de continuer à écrire des chansons. Et donc ça fait que le spectacle évolue sans arrêt. Il suffit que même l'après-midi même du spectacle, il suffit que quelqu'un ait une idée marrante. Bah toi tu vas me répondre ça et moi je vais te dire ça et puis pouf. Et voilà, donc ça c'est ça un peu l'intérêt puis la magie du spectacle vivant, c'est que c'est jamais figé. Sinon on s'ennuierait un peu vite. Et donc on rajoute tout le temps des petits trucs et puis des chansons. Et je pense que aussi longtemps que la tournée durera, on continuera à écrire.
Et ça vous arrive du coup d'improviser directement pendant le spectacle certains morceaux ?
Ouais. Alors, on n'improvise pas des chansons, par contre on improvise des blagues, même si on sait où on va, on sait ce qu'on a à dire, mais on aime bien aussi se faire des petites surprises l'un à l'autre, alors sans se tendre des pièges, parce qu'il faut pas mettre l'autre mal à l'aise ou le décontenancer, mais par contre lui faire des petites surprises et des petites vannes, bien sûr, et puis le public est jamais pareil d'un soir à l'autre, donc forcément il y a des vannes, il y a un cadre, mais à l'intérieur de ce cadre, il y a pas mal d'impro. Ouais.
Donc le spectacle se nomme Inavouable, mais tout au long, vous flirtez un petit peu avec ce qui se dit et ce qui ne se dit pas. À quel point la limite entre justement ce qu'on peut dire, enfin ce que vous osez pas dire plutôt, et ce que vous dites est fine ?
Ben, on est toujours un petit peu sur le fil. Ouais. L'idée du spectacle est venue du titre Inavouable. C'était c'est parti de là, quoi. Donc qu'est-ce qu'une chanson inavouable ? Ben, comme je disais tout à l'heure, c'est une chanson qu'on n'est pas censé chanter devant le public, mais pour autant on n'a pas voulu aller faire de la provoque pour faire de la provoque, faire du potage pour faire du potage. C'est quand même des chansons qu'on aime et dont on rougit pas du tout. Donc il y a des limites qu'on n'a pas voulu franchir. Par exemple, on essaie de pas du tout être de parler dans la vulgarité, c'est pas du tout notre truc, mais quand même toujours de flirter un peu avec un interdit, quoi. Et c'est ça qui est chouette quand on est à deux, c'est qu'à deux, on s'autorise beaucoup plus de trucs que tout seul. Moi, tout seul avec ma guitare, bah forcément, quand on écrit des chansons, il y a un peu d'autocensure, on fait un peu attention. Mais dès qu'on est avec un copain, bah voilà, c'est faire un peu des bêtises en classe quand on est au collège, quoi. Dès qu'il y a un effet de, dès qu'il y a un copain que ça fait marrer, bon bah on a envie d'y aller, donc ça permet d'aller plus loin.
Justement, pour vous, enfin, qu'est-ce qui est attirant dans ce fait là de d'un petit peu flirter avec cette limite et de se dire, ah, est-ce que là je peux le faire, est-ce que je peux le dire, qu'est-ce qui vous attire là-dedans?
Ben, ce qui attire, c'est de faire un truc qu'on n'a jamais fait déjà. Bon, déjà, on est là pour se marrer, hein. Ça, c'est un spectacle, c'est de la chanson française. Mais c'est vrai que c'est un spectacle plutôt humoristique quand même. On est là, même s'il y a des chansons un peu plus tendres, pardon, on est là pour rigoler. Et ça, c'est quelque chose de nouveau pour Alexis et pour moi. On n'avait jamais. On est des chanteurs. C'est pas qu'on est des chanteurs sérieux, mais on est des chanteurs plutôt. Voilà, et là, c'est la première fois qu'on met un pied dans l'humour sur scène. Donc ça, pour nous, c'est un territoire qu'on n'avait pas exploré. Et puis, si oui, c'est aussi de voir jusqu'où on pouvait aller. Moi, je sais qu'il y a des chansons. Je vais pas dévoiler les thèmes, mais il y a des chansons que j'aurais pas osé aborder tout seul. Et puis là, je suis un peu surpris de moi-même. J'aurais pas pensé ou dire des trucs que j'aurais encore une fois pas fait tout seul, donc mais moi aussi c'est un bon exercice pour se surprendre soi-même, en fait.
Vous avez c'est quelque chose d'innovant pour vous. Est-ce que ça vous a donné un petit peu envie de peut-être à l'avenir, peut-être dans des projets solo, de continuer un petit peu dans cette voie-là et de tester encore la filière de l'humour dans vos chansons?
Ouais, bah, de toute façon, il y a toujours un peu d'humour et de second degré et de dérision dans les chansons. Mais là, je pense que ça marche vraiment parce qu'on est à deux. Et puis, il y a un truc un peu de Laurel et Hardy, ou un truc un peu de clown. Alexis est grand et je suis petit. Et puis, voilà. Et je sais pas si tout seul, je pourrais faire ça. Mais ce qui est sûr, c'est que ça m'apporte des choses, de travailler avec Alexis qui a plein d'idées, qui est très créatif, et qui je sais qu'à l'avenir je concevrais plus tout à fait un concert exactement de la même façon. Bon, moi j'ai plus l'habitude de faire des tours de chant, on va dire, et là c'est vraiment un spectacle écrit, et ça j'ai pas mal pris goût à ça, d'avoir un truc un peu plus cadré, quoi.
Qu'est-ce que ça vous a appris un petit peu de faire cette pratique-là du spectacle, de mêler du coup la chanson à quelque chose d'aussi un petit peu théâtral, justement?
Ouais, c'est ça, complètement. C'est vraiment, il y a beaucoup de chansons, mais les chansons sont entrecoupées de dialogues entre nous. On se parle entre nous et puis on parle au public, et il y a un peu plus de dialogue que dans un concert normal. Là vraiment, c'est, on va dire que c'est moitié chanson, ou deux tiers chanson et un bon tiers de parlotte. Et donc cette parlotte-là, elle doit être écrite, elle doit être construite, il doit y avoir un fil conducteur, il doit y avoir une narration, un début et une fin. Alors que quand dans un concert normal, c'est plus des chansons qui s'enchaînent. Là vraiment, il y a une petite histoire.
Donc vous avez deux personnages, je ne sais pas si on peut appeler ça les personnages que vous interprétez. Est-ce que c'est quelque chose de vraiment autobiographique, puisque vous parlez du fait que c'est des chansons que vous avez écrites tous les deux un petit peu quand vous étiez ensemble, juste comme ça, pas forcément professionnellement. Est-ce que du coup c'est totalement autobiographique, ou alors il y a quelque chose un peu écrit?
Non, ça reste vraiment nous, parce que on n'est pas des comédiens, on est des chanteurs, donc on joue pas la comédie, on interprète. Mais là où on a un peu un personnage, c'est qu'on exagère un peu les choses. Déjà, par exemple, on se vouvoie sur scène, mais ça c'est un truc parce qu'on aime bien se vouvoyer comme ça pour rigoler.
Ah, on a perdu la...
Mais ça reste vraiment nous, ça reste nos histoires. On parle aussi dans le spectacle beaucoup de nos carrières, de nos parcours personnels. Donc voilà, c'est ça aussi qui intéresse les gens. Les gens, il faut qu'ils aient l'impression de spectateur de regarder un peu par le trou de la serrure, voir qu'est-ce que se racontent deux chanteurs quand ils sont seuls dans leur loge, ou en tout cas quand ils se croient seuls. Et donc ça nous force à rester un peu nous-mêmes, même si encore une fois il y a beaucoup de dérision, quoi.
Avec des choses, justement, vous parliez du vouvoiement que vous avez entre vous. Est-ce que ça crée un peu une dynamique du point de vue du public? Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous aviez pensé, cette dynamique un peu de répondant entre vous deux?
Ouais, c'est un truc qui était là depuis le début. C'est quelqu'un d'un bel homme, très grand, avec une belle voix, qui a beaucoup d'élégance, et surtout qui a qui a beaucoup d'éloquence, qui parle vraiment très très bien, et donc c'est pour ça que le vouvoiement nous va bien aussi. On se parle un peu, je sais pas, comme un peu comme deux vieux acteurs des années 70 en smoking, mais le spectateur il voit bien dès le début que c'est évidemment pour rire. Donc il y a un petit côté absurde, et ça aussi c'était nouveau pour moi, en tout cas dans ce spectacle, c'est de flirter avec un genre d'humour un petit peu absurde, et l'absurde c'est assez agréable sur scène, et ça, pour ça, mon copain Alexis m'inspire beaucoup. Il a tout le temps plein d'idées, c'est un petit peu barré parfois, et ça fait vachement de bien. Ouais.
C'est quelque chose aussi que vous aviez beaucoup pensé pour vos chansons, cet aspect d'absurde.
Ouais, il y a un peu d'absurde dans les chansons, parce que encore une fois, comme on les a écrites ensemble, bah, c'était un ping-pong, quoi, un ping-pong d'idées, et forcément, comme le copain il balance une idée qu'on n'aurait pas forcément eu soi-même, bah, c'est un peu comme un cadavre exquis, ça fait un peu comme un domino un peu bizarre où on n'arrive pas au même endroit que si on avait fait la chanson tout seul. Donc ça nous fait bifurquer dans des directions vraiment inattendues, et ça, c'est assez agréable, et c'est en ça que l'écriture à deux, ça fait un bien fou, c'est que c'est plein de surprises, quoi.
Et quelle a été un peu la réaction du public face à ce spectacle, et comment un petit peu ce ressenti? Est-ce que vous avez eu un petit peu un retour de ça?
Ouais, bah, ce qui nous fait plaisir, c'est que les gens viennent, les gens rigolent, et les gens ils partent avec le sourire, et ça c'est vraiment l'objectif numéro un, parce que encore une fois, si Alexis et moi on se fait beaucoup rigoler dans la vie, la difficulté c'était est-ce qu'on va faire rire aussi les gens, parce que si ça fait rire que nous, évidemment c'est pas drôle. Et donc on était rassurés dès le début de voir que on arrive à embarquer le public dans notre humour, qui est encore une fois un humour un peu particulier. Faut un peu rentrer dans notre délire, dans notre univers. Mais je pense qu'on arrive à le faire, parce que les gens, non, on les laisse pas sur le côté. Vraiment, on les invite avec la loge. Et donc il y a une connivence qui se crée. Et puis les gens repartent avec la banane, ils ont les chansons dans la tête, il y a des choses qui plaisent, des choses qui plaisent plus que d'autres. C'est encore un peu différent chaque soir, mais là on commence à se dire que ça fonctionne bien, parce que les concerts sont souvent complets, les gens sont heureux. Donc on se dit souvent mission accomplie, même si le travail est à refaire tous les soirs, quoi.
Vous parliez tout à l'heure d'une possible adaptation sur les plateformes des chansons. Est-ce que c'est un projet que vous avez en tête qui pourrait arriver bientôt?
Ouais, c'est possible. On a envie d'enregistrer, parce que c'est des chansons faites pour un spectacle vivant, mais on les aime beaucoup. Et on n'a pas envie qu'une fois la tournée terminée, ces chansons, on puisse les retrouver nulle part. Et puis on se rend compte aussi que le public nous réclame un CD, ou en tout cas il demande si on peut retrouver les chansons en ligne. Et donc là, à force, on se dit qu'on a bien envie de les enregistrer. Donc on n'est pas encore en studio, mais on y réfléchit, et ça pourrait prendre forme dans les semaines ou mois qui viennent. Ouais, on en a de plus en plus envie.
D'ailleurs, dans la possible réalisation de ce CD, justement, de cet enregistrement, comment est-ce que vous adapteriez, vu que vous avez certaines chansons qui sont improvisées ou vous créez au fil de la tournée, comment un petit peu vous pensez que ça pourrait s'adapter à ce niveau-là?
Bah, c'est une très bonne question. On est en train de se demander ça, justement, parce que soit on incorpore une part de live pour restituer un peu l'ambiance du concert. Il faut qu'on trouve un moyen pour que les chansons soient là, mais aussi il y a aussi des chansons qui ont besoin d'être introduites. On est obligé de les présenter, de les expliquer sous forme un peu de sketch, mais pendant une minute avant. Donc il faut qu'on trouve ce lien entre album normal et puis et le petit blabla qui entoure les chansons. Donc est-ce que c'est des extraits de live, est-ce qu'on est pour expliquer, enfin voilà, on est dans cette réflexion là, et je vous dirai quand on aura trouvé la solution, mais ça va se faire naturellement.
Merci beaucoup Benoît Doremus d'être venu au micro de Radio U.
Merci à vous.
On rappelle que donc vous allez jouer le spectacle Inavolable en compagnie d'Alexis HK le 28 février au Redour à Saint-Martin-des-Champs à partir de 20h30. Donc on a hâte de vous y retrouver.
Et moi aussi.
Donc je vous souhaite une...
nombreux.
On sera au rendez-vous.
Ça marche. Merci Radio U.
Bonne soirée et à bientôt.
Bonne soirée. Bye bye.
Donc nous aussi, on se dit au revoir pour ce soir. Mais on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission sur Radio U. Bonne soirée à toutes et à tous.